à toutes et à tous. Le cinéma en Loir-et-Cher a décidément quelque chose à nous dire en cette saison. Après s'être intéressé à la production de films d'animation il y a 15 jours, avec les 10 ans de Cyclic Animation à Vendôme, on célèbre cette semaine la programmation et la diffusion de films avec Cap Ciné à Blois, qui fête ses 25 ans cette année et qui organise cette semaine un événement pour fêter ça. Moteur, caméra, la lorgnette braque son projecteur sur cet équipement culturel emblématique de Blois. Action ! Et bienvenue dans cette lorgnette donc, dédiée à cette semaine aux 25 ans du Cap Ciné à Blois, une institution culturelle quand même pour la ville et le département. On a donc toute l'heure pour en parler avec notre invité, Sébastien Van Steen. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes donc le directeur de Cap Ciné. On va revenir sur toute l'histoire de, ce multiplex et puis de rentrer dans les arcanes de comment fonctionne justement une grosse machine, j'imagine, comme celle-ci. C'est 12 salles, c'est ça ? 11 salles. Donc j'imagine qu'il y a un gros travail de logistique, de programmation. Évidemment, vous allez nous dire tout ça. Salut Mathilde.
Salut Thomas.
Qui va animer cette émission avec moi. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement, même si on aura l'occasion de revenir et de redécouper un peu ce que vous allez dire en petites parties qui vont nous permettre de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter la structure, l'équipement de manière un peu générale ?
C'est ça. Donc Cap Ciné, donc c'est qui est un cinéma, comme on appelle un multiplex, de 11 salles. Donc on propose une programmation, on va dire, généraliste et grand public, par rapport au cinéma Les Lobbies, qui nous appartient aussi, hein, la même société.
On y reviendra évidemment, ouais.
Les Lobbies qui proposent, eux, une programmation à réessai, et un cinéma labellisé.
Combien de salariés vous employez à Cap Ciné ?
Alors actuellement, on est 14.
Ok.
Voilà, 14, on était plus il y a des années. Ouais. Il y a eu quelques changements qu'on va pouvoir discuter après.
Absolument.
Hein, sur l'évolution du cinéma jusqu'à maintenant.
Tout à fait. Donc à l'accueil, à la projection, à la programmation, j'imagine que c'est des postes assez classiques d'un cinéma.
Tout à fait.
Ça marche. Donc pour revenir sur ces 25 ans de Cap Ciné, on voulait quand même revenir sur quelle était l'offre de cinéma à Blois au moment où Cap Ciné s'est installé sur le secteur, sur la ville.
Oui, alors historiquement, donc on avait les cinémas en centre-ville de Blois.
Ouais.
Donc il y avait les Lobbies,
ouais.
Les Césars en Vienne et les Trois Clés en centre-ville également.
Donc trois petits cinémas, on va dire.
Voilà, ouais. C'était trois petits cinémas.
Trois petits cinémas de cœur de ville en plus.
Voilà,
ouais.
De cœur de ville, voilà. Et donc le PDG de Cap Ciné, Philippe Dejuste, en 2000, a eu le projet de monter un multiplex, qui était d'ailleurs pour l'histoire un des premiers multiplex indépendants de France.
On va revenir sur cette notion d'indépendance. J'imagine que vous savez aussi ce qui se passe au niveau des multiplex. On va évidemment y revenir.
Tout à fait. Donc, l'idée, c'était un petit peu un pari à l'époque quand il a monté Cap Ciné. Hein. Il avait dit à tout le monde, cette année, si on ne fait pas 350 000 spectateurs, on ferme. En gros, c'était ça. Et donc c'était un pari gagné dès la première année.
C'était trois cinémas, alors les Lobbies existent toujours, mais les deux autres en Vienne et aux Trois Clés, c'était trois petits cinémas qui appartenaient à deux structures différentes.
Non, c'était le beau-père du PDG.
D'accord, ok.
Okay. À qui appartenait, donc il a repris
Donc en fait c'était une espèce de restructuration d'une offre déjà existante, on va dire. L'idée c'était de rassembler ces deux salles, il y en avait plusieurs, mais ces deux cinémas en un seul, en périphérie.
C'est ça, exactement.
Très bien. Et donc l'idée, malgré tout, de garder évidemment un cinéma d'arrêt d'essai là où il a toujours été.
Tout à fait, en cœur de ville.
Ouais. Ça marche. Donc vous l'avez dit, c'est un cinéma, le Cap Ciné, c'est un cinéma de films grand public, on va dire. Quand est-ce que s'est fait la fusion avec Les Lobbies, qui a toujours été, lui, un cinéma d'arrêt d'essai?
Il nous a toujours appartenu, donc il a fermé quand il a monté le multiplex, il a fermé les deux autres cinémas qui étaient le César et les Trois Clés, qui est maintenant réhabilité en immeuble, en appartement. Et dans la foulée, donc il y a toujours eu Cap Ciné et là toute la partie film arrêt essai était au Lobbies. Mmh. Voilà. Ça a été comme ça dès le début.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation, de la répartition justement entre les films qui sont dédiés à Cap Ciné et puis ceux qui vont au lobbyistes? J'imagine des fois il y a des arbitrages qui se font parce qu'on va décider qu'un film va avoir un public plus fort, va avoir une meilleure fréquentation dans ce cinéma ou dans l'autre. Donc comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça se fait?
Tout à fait. Alors déjà, je vais présenter, déjà, il y a deux personnes clés, on va dire, sur les deux structures, qui est la programmation. Donc on a une programmatrice qui s'occupe de Cap Ciné et la directrice des lobbyistes, Laetitia Charlier,
qui est aussi en charge de la programmation.
Voilà, qui s'occupe de la programmation RSC des lobbyistes. Donc ensuite, comment ça fonctionne? En gros, toutes les semaines, on a énormément de sorties de films, de plus en plus. Donc il y a des semaines, on a peut-être 20, 15, 20 films qui sortent. Donc au bout d'un moment, il y a des choix à faire. Donc il y a des choix qui ne se posent pas. Il y a des films qui sont labellisés à réessai, donc automatiquement,
ils vont au lobbyistes.
Voilà. Après, pour la partie Cap Ciné, alors certes, on a plus de salles. Donc voilà, on peut se permettre de prendre plus de films. Mais il y a des contraintes aussi au niveau des distributeurs de films qui nous imposent tant de séances jour. Donc voilà, obligatoirement, on a un arbitrage à faire à un moment donné. Donc il y a des films, évidemment, des grosses productions pour lesquelles c'est tout à fait logique de le diffuser. Donc après, c'est en fonction de la place qui reste où on va pouvoir dire au distributeur, ok, on peut prendre celui-là parce qu'on a un peu de place, mais à telle ou telle heure, voilà.
C'est plus facile de devoir gérer le cinéma grand public et le cinéma arrêt-essai dans une seule entité, puisque dans d'autres villes, peut-être qu'il y a des pressions, des frictions entre différents cinémas pour récupérer une salle. Là, vous avez un monopole, c'est pas un joli mot, mais
oui.
C'est le meilleur mot pour décrire la situation économique
Blois,
des cinémas.
Blois, c'est facile. Hein.
Ouais.
Oui. Il n'y a pas de souci. Hein. Non, sur d'autres villes, c'est beaucoup plus compliqué où il y a des concurrents et tout.
Ouais.
Donc après, voilà, c'est des arbitrages encore plus compliqués avec les distributeurs où il faut se battre pour avoir des fois des copies de films. Hein, ce qu'on appelle des copies, mais c'est plus des copies maintenant.
Oui. Il y a donc une pression, on l'entend dans votre bouche, des distributeurs. La pression, elle est plus forte qu'il y a 10, 15 ans, 25 ans, si on veut revenir, ou pas, justement, pour faire le plus de passages de films en journée.
Je ne sais pas si elle est plus forte.
Ouais.
Elle a toujours été là. Ouais, ouais. Ouais. Peut-être qu'elle s'est un petit peu accentuée. Maintenant, comme on propose, on a plus de salles, on propose beaucoup d'horaires. Donc, je pense que c'est pareil. C'est pareil qu'avant.
Okay. Ouais, ouais.
Et ils fonctionnent, ces horaires en journée? Et la semaine, surtout?
Alors...
ça,
je vais parler...
c'est paradoxal au final de pousser les horaires, mais sur la semaine, voilà, les gens travaillent.
Non, honnêtement, on est ouvert la semaine. Nous, le format semaine, les horaires, c'est 14, 17, 20, 22. Le mercredi, on fait des séances toutes les deux heures. Mais sinon, non, la semaine, c'est des créneaux qui ne fonctionnent pas beaucoup en termes de fréquentation. Hein,
donc, j'imagine que c'est pareil pour tous les cinémas de France.
Oui, globalement, oui, tout à fait. Ouais. Non, oui. C'est vraiment, c'est le vendredi, samedi, dimanche qui sont nos grosses journées. Il y avait le mercredi. Alors le mercredi, c'est plus comme avant. Avant le mercredi, c'est la sortie des films.
C'est déjà le jour de sortie des films.
Il y a quelques années, mercredi, c'était une journée comme un samedi. Depuis quelques années, c'est plus le cas du tout. Hein.
Ouais.
C'est devenu
À quoi vous l'expliquez?
Je pense qu'il y a eu un changement au niveau des horaires des écoles où tout ça avant le mercredi était beaucoup consacré aux enfants et beaucoup moins les lycéens en cours le mercredi. Je pense qu'il y avait il y a quelques changements qui se sont faits là-dessus et je pense que dans la tête des gens, le cinéma, c'est le week-end.
Donc à part la première séance du mercredi matin à l'UGC Déal, on reparlera du GC tout à l'heure, effectivement, vous, le mercredi, c'est pas du tout une journée, enfin c'est une journée comme une autre.
Maintenant, oui. Ouais. Oui, malheureusement.
Et c'est le vendredi, le samedi et dimanche que la carrière des films en province se joue, on va dire.
C'est ça,
ouais.
Tout à fait. Ouais.
Ça marche. Je reste un petit peu sur les lobbies et puis après on s'occupera vraiment du Cap Ciné. Comment est-ce que financièrement, les finances des lobbies et du Cap Ciné sont équilibrées? Est-ce que les lobbies coûtent plus cher qu'ils ne rapportent? Est-ce que c'est l'inverse d'ailleurs? Enfin voilà, quels sont les équilibres financiers qui se jouent entre la gestion des deux équipements?
Pour tout dire, heureusement que on est une seule et même société parce que je pense que les lobbies, ça pourrait pas seul, ça serait compliqué de survivre.
Ça veut dire que l'ARSC est pas très fort sur Blois?
Alors il est fort, c'est pas ça, c'est plus la, je pense au niveau fréquentation et maintenant on est en plus on est dans des coûts de fonctionnement énormes qui ont augmenté depuis des années, donc c'est devenu très compliqué. Mais voilà, enfin Cap Ciné, surtout en ce moment, quoi, c'est vraiment une période où on a perdu beaucoup de fréquentation cette année. Voilà, on fête nos 25 ans, mais c'est pas dans la meilleure des années pour nous.
On va y revenir aussi.
Ouais. Mais non, on est vraiment voilà, on est deux entités sous une même société. On fonctionne comme ça depuis des années et voilà, ça se passe très bien comme ça.
Pour parler de la fréquentation, c'était notre sujet suivant avec Mathilde. Est-ce que une bonne année pour Cap Ciné, c'est souvent une bonne année pour les lobbies ou les deux peuvent faire des années très différentes en termes de fréquentation?
Oui, totalement différentes.
Ouais. Ouais.
Donc déjà, on n'a pas le même public.
Ouais, bien sûr.
Donc là, par exemple, pour vous dire, Cap Ciné, en ce moment, on est à moins 25% par rapport à l'année dernière, que les lobbyistes perdent beaucoup moins. Mmh. Voilà, il y a des spectateurs beaucoup plus fidèles aux lobbyistes. Et
la cinéphilie a encore un peu de beaux jours devant elle.
Exactement, exactement.
Parlons de la fréquentation, Mathilde.
Oui, justement, quand on entend le public parler des causes principales, on va dire de la baisse de fréquentation, ça va être sur l'offre des films, sur l'importance des plateformes maintenant, sur les prix aussi. Moi, j'ai envie de rajouter peut-être aussi l'influence des réseaux sociaux avec le fait que les films sont spoilés très rapidement dès leur sortie.
Ouais.
Est-ce que vous aussi, vous le sentez sur Blois et du coup au Cap Ciné?
Oui, on le sent, tout à fait. On se tracasse un peu la tête en ce moment. Hein. On cherche, mais pourquoi? Quand on voit, alors nous, Cap Ciné, on suit à peu près la moyenne nationale des cinémas, mais on a effectivement une grosse perte de fréquentation par rapport à avant le Covid, en fait. Hein. Voilà, on a fait, pour l'histoire, en 2019, on a fait notre meilleure année.
Depuis les 25 ans, sur les 25 ans de l'histoire du Cap Ciné.
En 2002, et là, cette année, on va faire la pire.
Ok, donc en 6 ans, effectivement, moi, je voulais,
changer,
ouais. Ouais, je voulais savoir si une année sans, on va dire, comme celle de 2025, c'est pas malgré tout cyclique. On sait que 2024 a été une très bonne année, portée par des grands films français, notamment. Est-ce que cette année, c'était moins bien, mais on peut se dire que c'est une année mauvaise parmi d'autres qui n'ont pas forcément été très bonnes dans les 25 ans de votre histoire. Et est-ce que c'est grave ou est-ce que là, il y a un vrai signe d'inquiétude de votre part et de la part des exploitants de cinéma de manière générale? Est-ce que cette inquiétude-là, elle est partagée par l'ensemble ou est-ce qu'on peut se dire que c'est juste une année, enfin, c'est juste un cycle? Cette année, elle était moins bonne. Voilà, l'année 24 avait été excellente. 2026 sera peut-être entre les deux ou quelque chose dans le genre.
Oui, on peut dire que l'inquiétude, oui, touche tout le monde. Hein,
ouais.
Ça, je peux vous le dire. Après, voilà, il y a des années sans, il y a des années avec.
Ouais.
Bon, ça fait beaucoup
d'années sans
voilà,
depuis 2019.
Voilà, ça fait beaucoup d'années sans depuis 2019. Mais voilà, par exemple, l'année dernière, on avait augmenté par rapport à l'année d'avant.
Ouais.
Là, il y a une baisse. Effectivement, il y a peut-être le manque d'offres. Qui joue là-dedans, mais voilà. Et quand je regarde les sorties prévues pour 2026, je suis plutôt optimiste.
Ouais.
Donc j'ai envie d'y croire.
Ok.
Vous étiez surpris ou pas quand même de cette baisse en 2025? Parce qu'il y avait quand même des gros blockbusters qui étaient annoncés. Je pense par exemple au dernier Mission Impossible, Tom Cruise, d'autres choses.
Ouais. Bah oui, vous m'avez posé la question l'année dernière. Oui, j'aurais pas dit qu'on aurait fait une année catastrophique comme ça.
On a vu aussi que les Marvel souffraient d'une espèce de lassitude. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ils ont marché. Il y a un sujet.
Ah, ouais. Bah moi, étant...
Ils en ont sorti moins déjà.
Ouais.
Au-delà de la qualité intrinsèque des films, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une certaine lassitude de ce genre-là. Spécifiquement,
je
parle de Marvel, mais c'est valable pour d'autres.
Mais
voilà, Mission Impossible, pour des grandes sagas cinématographiques qui avaient drainé beaucoup de monde.
Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Si on peut reparler de Marvel, qui était un grand fan de Marvel, quand Endgame s'est terminé, le dernier, qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite?
Vous avez senti une bascule?
Et oui, enfin, ce qu'ils ont sorti après, on l'a vu tout de suite. Hein. Ça n'a pas pris. Hein. Ça a pas pris.
Est-ce qu'il y a un effet d'entraînement? Donc je repars sur l'année 2024 qui a été plutôt très bonne, hein, malgré tout, avec le succès de 2-3 films français, notamment évidemment Un Petit Truc en plus. Est-ce que quand un grand film comme ça, qu'il soit français ou américain, que ce soit une comédie ou un film d'aventure, il y a eu Le Comte de Monte Cristo qui avait aussi très bien fonctionné. Ouais. Est-ce qu'il y a un effet d'entraînement? Est-ce que comme les gens vont beaucoup voir un film, ils se disent « Ah oui, c'est vrai, c'est bien le cinéma, je vais y retourner plus tard dans l'année, voir d'autres films qui m'intéressent. »
Est-ce je pense.
Au-delà de l'effet d'entraînement d'un seul film, est-ce que ça fait revenir les gens en salle pour d'autres films voilà, des grosses locomotives comme celle-ci.
Ah,
et
oui,
des surprises
pense,
en plus, un petit truc en plus a surpris tout le monde, j'imagine.
Bien sûr, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Mais de toute façon, les grosses productions comme ça, les grosses productions américaines, c'est ce qu'on dit toujours, ça ramène les gens au cinéma, et après ils vont découvrir, on se dit ah mais tiens, oui il y a ça, il y a ça qui va sortir bientôt, donc on va y retourner à ce moment là donc oui totalement, totalement.
Et donc effectivement sans film qui fonctionne bien, sans film américain qui fonctionne bien, vous savez assez vite en début d'année si finalement le reste de l'année va être marqué par
c'est ça. Ouais, tout à fait.
Ok,
tout à fait.
Il y a je repense à un petit truc en plus, il m'a semblé, et ça je crois que c'est une spécificité chez vous, j'ai pas fait tous les multiplexes indépendants de France, mais que un petit truc en plus l'année dernière a dû être diffusé jusqu'en octobre. Vous avez une durée de vie qu'il me semble exceptionnelle pour avoir fréquenté plusieurs villes. Je vais régulièrement au cinéma, j'ai vécu dans plusieurs villes, je n'ai jamais vu un multiplex, un équipement de cinéma qui prolonge autant de temps les films que chez vous.
Oui, tout à fait. Oui.
J'ai raison.
Ah, vous avez raison.
C'est pas une vue de l'esprit.
Alors je vais vous expliquer pourquoi.
S'il vous plaît.
Alors déjà, donc, on garde un film parce qu'il fonctionne.
Ouais.
Donc tant qu'il y a du monde qui vient le voir, on le garde.
Ouais.
Après, pour vous expliquer, donc, tous les films sont négociés chaque lundi par la programmatrice avec les distributeurs, où est négocié un taux de location, qu'on appelle, du film. Donc c'est, pour la petite histoire, sur une place de cinéma, vous avez des taxes à payer. Donc nous, sur une place à 11 euros, on a, je crois que c'est 2%, non, 3% de TSA, 5% de TVA. Mm-hmm. Et sur les, ça doit être 84% qui reste. Donc c'est ce taux-là, en fait. Généralement, une sortie de film, c'est un taux à 50%. Donc c'est 50% par distributeur, 50% pour le cinéma.
Ouais.
Et au fur et à mesure des semaines, ce taux va diminuer.
Ok.
Voilà, et va être plus intéressant pour le cinéma. Voilà pourquoi un film qui fonctionne dans la durée, pour le cinéma, c'est une très bonne chose.
Mais même un film qui fonctionne moyennement, j'ai l'impression que vous l'exploitez. Voilà, dans cette logique-là, vous allez tirer...
C'est vraiment en fonction de, en fonction de ces taux de location et en fonction de la fréquentation que le film va avoir. Hein.
Parlons d'une ville voisine que je connais en plus, avec les cinémas CGR de Tours, par exemple. Mmh. On sait qu'au bout de... On en parlait avant l'émission avec Mathilde. On sait qu'au bout de 15 jours ou 3 semaines, si un film ne fonctionne pas, il va disparaître des salles. Ça, c'est la souplesse d'un multiplex indépendant qui peut permettre
aussi
ce genre de prolongement,
sûr,
même si le film fonctionne moyennement.
Tout
chez vous,
fait,
il va être plutôt exploité 5 ou 6 semaines.
C'est ça.
Ouais.
Oui, bien sûr. Ah, oui, on est totalement libre là-dessus par rapport à un cinéma d'un grand groupe, bien sûr. Bien
ok. Et eh ben voilà, je suis content d'avoir une réponse parce que ça m'a toujours surpris chez vous cette durée de vie des films. Je voudrais qu'on reparle un peu des politiques tarifaires, Mathilde.
Oui.
Oui.
Et du prix de la place. Sujet sensible aussi,
oui,
je crois.
Oui, justement, on entend beaucoup le public se plaindre des prix du cinéma. Est-ce que vous le comprenez ou pas? Les reproches qui peuvent être faits.
Oui, tout à fait, je le comprends. Mais si, voilà, on ne l'augmente pas pour...
Par plaisir.
Par plaisir, loin de là. Non, on aimerait à chaque fois, c'est des vraies questions qu'on se pose.
C'est toute la chaîne de production du cinéma qui augmente et donc, in fine, le prix
en fait, c'est surtout nos charges, en fait.
Ouais.
Hein, nos charges qui ont relativement explosé depuis le Covid. Hein. Pour rappel, on payait en 2019 90 000 euros d'électricité par an. On est passé à 220 000 après.
Donc ça a plus que doublé.
Donc si on veut que le cinéma tienne, on n'a pas le choix au bout d'un moment. Mais dans la mesure où on sait bien que si on augmente trop, les gens ne vont plus venir.
D'ailleurs, je me permets de rebondir sur un dernier sondage de 2024. Il me semble 67% des Françaises et des Français interrogés renoncent à se rendre au cinéma en raison du prix. Et c'est un loisir qui est assez peu régulier, puisque seulement 20% des interrogés y vont plus de 6 fois par an. Donc 6 fois par an, ça fait un film tous les 2 mois, c'est pas énorme. Enfin,
oui,
voilà, c'est régulier, mais c'est pas énorme. Donc effectivement, on voit que c'est une pratique qui est assez éloignée du sport, où les gens ont une licence, ils y vont toutes les semaines, etc. Là, c'est vraiment une pratique de loisir assez irrégulière. Vous le voyez, c'est quelque chose qui est acquis.
Ah oui,
qui
on le voit. Oui, les habitudes ont totalement changé.
Ouais.
Oui, bien sûr. Alors... Oui.
Ils ont aussi changé. Est-ce que le choix des films qu'ils vont voir aussi, peut-être?
Aussi. Alors, je pense que maintenant, les spectateurs sont très sélectifs. Mmh. En fait, ils font le choix d'aller voir un film où vraiment, ils ont envie d'aller le voir au cinéma.
Ils se laissent moins happés par une curiosité.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Ils ne se pointent pas devant le cinéma, ils regardent les 12 affiches de votre film et se disent, on va voir celui-ci.
Et ils ont le film en tête.
Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Pour continuer sur le prix, malgré tout, est-ce que vous avez aussi remarqué peut-être un changement d'habitude en se disant, je vais prendre... Alors, ça force à venir plus souvent, mais avec des cartes abonnement, enfin des abonnements, etc., les CE qui tournent, etc. Puisque rappelons malgré tout que le prix moyen d'un billet en France est de 7,24€. Alors les données sont de 2022, ça a peut-être
augmenté,
mais on est encore en dessous de 8€ ou aux alentours peut-être de 8€ en 2025. Ouais. Donc ça reste moins cher que le prix d'entrée d'un usager qui vient à la caisse sans abonnement et qui va payer 11€ et des bananes chez moi.
11€ tarif plein. Oui.
Ouais. Donc on est quand même 3€ moins cher sur une moyenne, la moyenne française malgré tout, grâce à les abonnements, les prix, les abonnements de 5 places ou 10 places, je ne sais plus quelle est votre politique.
Les cartes à place et les abonnements qu'on est en train de revoir d'ailleurs. On est en train de tout revoir, on remet tout à plat.
Ouais.
Donc voilà, ça devrait être pour le début d'année, on devrait partir sur des nouvelles formules d'abonnement.
Des années comme celle-ci forcent à revoir les politiques tarifaires l'offre possible.
Tout à fait, il y a ça. Il y a aussi, donc on s'est rendu compte, de prendre ses places sur Internet coûtait, on a des frais. Avec la plateforme avec qui on travaille. Donc on a baissé volontairement le prix de la place. Donc à partir de maintenant déjà, une place de ciné réservée sur le web est moins chère qu'en caisse. Voilà.
Ok. Ça, c'est une information, effectivement, que je n'avais pas.
Tout à fait.
Ça fait déjà 20 minutes qu'on parle, c'est passionnant. On fait une petite pause musicale et on continue avec donc notre invité Sébastien Vanstine pour parler des 25 ans de Cap Ciné. A tout de suite.
On
vient d'écouter Tom Jones avec Keep On Running. Je n'ai pas choisi ce morceau par hasard, je vais vous raconter un peu ma vie. Cette pause musicale a été choisie parce que je suis allé au Cap Ciné dernièrement et que ce morceau est utilisé dans le générique d'un film que vous diffusez en ce moment, qui est Running Man, film d'Edgar Wright, qui constitue le générique de fin, et que je suis allé voir en VO parce que le cinéma d'Edgar Wright, il se voit en VO, entre autres. Et donc, ça me servait de pont pour vous poser cette nouvelle question, Sébastien Vanstine. Donc, je rappelle, un directeur du Cap Ciné. Vous avez une politique de VO sur ces films grand public. Hein. La VO n'est pas que destinée aux lobbies, même si c'est là-bas qu'on l'imagine. Vous avez ces grands films, même certains Marvel, les Missions Impossibles. Je pense que vous avez quelques cases en semaine qui sont dédiées à ces films en VO. Il y a un public blésois pour ce grand spectacle en version originale.
Il y a un public et il y a surtout une demande. Donc voilà, à partir du moment où on a agrandi le cinéma en 2017, on a rajouté deux salles.
Ouais.
Le but, c'était de proposer et plus de films et surtout proposer de la VO pour les gens. Donc oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on avait de la demande là-dessus et on essaie de le faire. Donc pas qu'en semaine, on essaie aussi le week-end.
Ouais.
Alors le samedi, c'est plus compliqué parce que quand on met trop de VO, on a les gens qui se plaignent, il y a trop de VO, et quand on n'en met pas assez, il y a les gens qui aiment bien la VO qui se plaignent.
J'ai toujours cette anecdote quand je vais voir un film en VO, j'essaye les blockbusters que j'ai envie de voir puisque vous les proposez assez généralement en VO, effectivement. J'ai toujours l'anecdote de l'agent de caisse qui nous dit c'est en VO hein, monsieur hein, vous le savez. Oui je viens spécifiquement pour la VO parce que quand même il y a des gens qui il y a de la confusion.
Il y a de la confusion au départ, on a eu pas mal de confusion, les gens qui arrivent mais en fait vous m'avez pas dit c'était en VO. c'était marqué sur l'horaire. Oui, effectivement, on l'a pas reprécisé en caisse.
Donc c'est pas du tout un risque de proposer ces films en VO via...
Non, pas du tout. Je pense que c'est important.
Ouais.
À partir du moment où il y a un public pour ça.
Et ça attire ou pas justement nos publics, parce que enfin il y a quand même ce débat dans la société, est-ce qu'on regarde les films en VO ou pas.
Dans la mesure où il y a une demande, oui, je pense que ça attire, il y a du monde qui vient, donc je pense que c'est des gens qui seraient pas venus le voir ce film-là en version française. Donc oui.
Je ne serais jamais allé voir Running Man en VF, si je peux me permettre. On rappelle quand même que c'est un coût, mais donc il est amorti en tout cas, et c'est pas un risque financier d'avoir de la VO, puisque quand on achète un film en VO, il me semble que vous achetez la copie en VO, c'est pas ça a changé ça peut-être. Pouvez passer la copie en VF ou en VO.
Ouais, on reçoit des packs.
À une époque, achetait deux copies différentes.
Parce qu'à l'époque de la bobine.
C'était de la pellicule. Maintenant le numérique a facilité.
Maintenant le numérique, on reçoit un package informatique, on va dire, toutes les semaines avec les plusieurs versions sur le film.
Voilà,
après on choisit, mais il faut quand même demander surtout les clés de déverrouillage pour chaque version de film.
Ok, ça marche. Je voulais également vous interroger sur les nouvelles diffusions que le cinéma, que tous les cinémas ont pu opérer depuis ces dernières années. Maintenant, on peut voir du théâtre, du documentaire, des concerts, événements de Johnny Hallyday ou de Matt Podkora ou de Bruel ou de Sardou, etc. Ça, c'est quelque chose dans l'économie d'un cinéma, c'est indispensable.
Oui, je pense que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, oui. Oui, tout à fait. On en a toujours eu, de mémoire, l'opéra, ça a commencé, dès qu'on a commencé, de toute façon, la migration en projection numérique, donc c'était dans les années 2007-2008, donc l'opéra est apparu, ça a commencé comme ça, le théâtre, et après, il y a d'autres contenus qui sont venus s'ajouter, et c'est vrai que nous, quand on nous propose, on prend le maximum de choses comme ça. Des concerts, c'est vrai que ça vaut pas le concert sur place, mais pour les gens qui peuvent pas se déplacer et qui n'ont pas réussi à avoir de place pour un concert, c'est quand
même. Et le prix des concerts de spectacles vivants a aussi explosé, donc allez voir Matt Pokora, pour reprendre un artiste actuel dont la place peut-être coûte 50 ou 60 euros en live, c'est pas forcément pour toutes les bourses, donc au tarif habituel, ça vaut le prix d'une place de ciné,
c'est
moins
cher. Non, généralement c'est des tarifs spécifiques,
d'accord.
C'est plus cher. Après ça dépend des événements. Il y a des événements, on arrive à 19 euros, je crois que le dernier c'était Joule. On devait être ça à 19 ou 20 euros.
On est dans l'entre-deux d'une place de cinéma et d'une place de spectacle, de concert.
J'imagine qu'après, on n'a pas trop le choix en même temps, ils nous imposent le tarif.
Ça permet de drainer des publics différents. J'imagine que le fan de Marvel ou la famille qui vient voir un petit truc en plus n'est pas celui qui vient voir de l'opéra, etc.
Oui, bien sûr. Oui, oui. tout à fait. Oui, ouais. Oui, si on prend exemple sur l'opéra, bien sûr, hein, c'est des spectateurs bien spécifiques, l'opéra. Donc, oui, je pense que c'est... mais voilà, il y a de plus en plus de contenu. On a eu, on avait eu le documentaire sur Inextag aussi qu'on avait retransmis. Donc, voilà, il y a plusieurs choses. Alors, c'est bien, il y a plusieurs choses qui s'ouvrent. Et la prochaine étape, peut-être, ça sera les séries, le début des séries en avant-première. Donc, j'espère.
C'est vrai qu'il y a une grande époque où les premiers épisodes de séries, à l'âge d'or des séries, là maintenant, il y en a tellement que l'offre est tellement éparpillée que c'est plus difficile. Mais quand il y avait un peu moins d'offres et des grandes séries événementielles, c'est vrai qu'il y avait souvent des premiers épisodes, les deux, trois premiers épisodes d'une série étaient projetés sur grand écran et il y avait c'est un public pour soi. Même moi-même, j'ai déjà eu cette occasion. Vous pensez que ça pourrait y revenir?
Ah oui, je pense, Ah oui, je pense, tout à fait. Okay. Oui, je pense qu'il y a un gros travail à faire avec les plateformes, la plateforme américaine, mais je pense que ça sera intéressant.
Comme on pensait que le magnétoscope allait tuer la télévision, est-ce que le streaming va tuer le cinéma? Alors, pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. Je pense pas que ça va le tuer. Ouais. Non, je pense pas que ça va le tuer.
J'imagine que ça a forcé quand même à revoir.
Bien sûr, tout à fait. Oui, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a, des gros films. Bah, on sort Avatar le 17 décembre. Mm-hmm. C'est un film qu'il faut venir voir au cinéma. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas regarder Avatar sur une plateforme. C'est pas possible. Faut venir au cinéma.
Est-ce que, et pour faire le pont avec 2025 qui n'était pas une bonne année, est-ce que Zootopie qui vient de sortir, Avatar qui s'apprête à envahir 600 ou 900 écrans en France vont permettre peut-être d'amortir le choc? Vous parlez de moins 25%, est-ce que ça va peut-être permettre de redescendre?
Je pense qu'on va pas...
C'est trop tard?
Là, je pense que l'année est faite, malheureusement. Ouais. Okay. Non, on est tellement loin que ça sera irrattrapable, mais on l'a vu, hein. Donc Zootopie est sorti mercredi dernier, donc on a fait un week-end de fou. Ouais. J'étais dans les salles
les
dimanche en train de nettoyer,
pleines, ça criait.
Non, mais c'est bien parce que
il a
de
très bonnes critiques en même temps. Moi j'ai vu, reste un bon film Zootopie.
C'est vrai, tout à fait.
Chaque semaine, la lorgnette vous recommande un podcast, un article, un documentaire. Cette semaine, je vous propose un podcast qui s'appelle Le pire podcast de cinéma. On écoute et on fait réagir notre invité juste après.
Eh ben si on parlait du fait que le cinéma va mourir. Non, je rigole, il va pas mourir. Enfin, c'est juste que pour qu'il se passe ce qui se passe en ce moment, ça veut dire en tout cas que le cinéma, il va pas très bien. Et je suis pas certain que ça va aller beaucoup mieux. Connaissez-vous les cinémas UGC? C'est environ 30 millions d'entrées au cinéma par an. UGC, c'est 15% de notre marché national. Ils sont aussi dans la distribution de films, avec leur branche UGC Distribution, qui a un catalogue extrêmement varié. Voilà, alors ça va des films du Cobu à Amélie Poulain, en passant par Annette de Léos Carax, Une vie cachée de Terrence Malick, et derrière les films Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et ils ne sont pas que distributeurs, ils sont aussi producteurs, avec plein de petites boîtes de production qu'ils ont créées à droite à gauche. Comprenez donc que UGC, c'est pas qu'une boîte, c'est un empire. Et Canal+ veut mettre la main dessus. Voilà. Là, c'est le début des problèmes. On a appris tout ça dans un communiqué du groupe Canal+, sorti le 2 septembre, et qui dit ce qui suit, je cite, « Le groupe Canal+, et UGC sont entrés en négociation exclusive pour l'entrée au capital de l'acteur historique du cinéma français. Dans un premier temps, le groupe Canal+, ferait l'acquisition d'une participation minoritaire, 34% au capital d'UGC, et dans un deuxième temps, les accords avec les actionnaires UGC permettraient au groupe Canal+, de prendre le contrôle d'UGC à partir de 2028. Le président de Canal+, Maxime Saada, a déclaré derrière, je cite, « Cette opération démontre l'engagement du groupe Canal+, dans le cinéma et dans l'exploitation en salle, qui joue un rôle essentiel dans son exposition et sa valorisation. » Comment je le sens pas? Comprenez bien un truc, c'est-à-dire que pour l'instant, Canal+, ils parlent d'acheter qu'une partie. Mais à terme, dans 3 ans, ils sont en passe de contrôler UGC. Pourquoi est-ce que les milliardaires en ce moment ont tant envie que ça d'acheter des salles de cinéma? Il y a 4 mois de ça, la famille du milliardaire Rodolphe Saadé, ce milliardaire-là, il est entré au capital de Pathé, les concurrents du GC. C'est-à-dire qu'il y a un milliardaire qui prend Pathé, il y en a un autre qui prend UGC. Voilà, les cinémas, ça vaut moins cher aujourd'hui que ça valait il y a quelques années. Le Covid a fait un mal de chien à l'industrie. On nous sort en permanence des articles pour nous expliquer « Oh là là, les gens vont moins en salle, c'est absolument terrible, les cinémas vont mourir. » Et nous, pauvres mortels, en voyant un truc en difficulté, on se dirait pas instinctivement « Tiens, ce truc est en train de se péter la gueule, je vais mettre mon argent dedans. » Et du coup, c'est le moment d'investir dedans, histoire de truster le marché et d'obtenir des opportunités croustillantes. Et il y en a un qui est toujours à la recherche d'opportunités croustillantes. et je parle ici de monsieur Vincent Bolloré. Monsieur, je possède Canal+, et je posséderai bientôt les salles de cinéma où vous posez vos fesses. Et donc, si ce monsieur se retrouve à posséder UGC, ça veut dire qu'il va pouvoir, s'il le souhaite, continuer son combat civilisationnel directement dans nos salles de cinéma. Voilà, dans le choix des films diffusés, par exemple, dans le contrôle de ce qui passe et de ce qui ne passe pas sur ses écrans. Je dis pas qu'il va le faire. Je dis qu'il peut le faire. On peut aussi se poser quelques questions sur le changement de politique de prix dans ces cinémas-là. Parce que oui, c'est-à-dire que quand tu rachètes un truc pareil, ton but à la fin, c'est de faire des bénéfices, c'est pas de perdre du pognon. Du coup, tu te poses des questions sur comment je génère des sous-sous. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le schéma extrêmement vertical dans lequel on va se retrouver avec l'alliance UGC-Canal. Comprenez-moi bien, on parle littéralement du plus gros financeur du cinéma français, littéralement le groupe qui fait la pluie et le beau temps dans le cinéma actuel, et qui va se retrouver à posséder les salles. Est-ce que par exemple les salles UGC vont devenir des sortes de méta-cinéma où on diffusera pas que des sorties mais aussi des trucs vis-à-vis de MyCanal? Est-ce qu'on peut aussi envisager des nouvelles pratiques qui vont complètement bouleverser l'équilibre et l'écosystème du financement de notre cinéma? Ça, c'est inquiétant parce qu'il y a moins de films qui vont être produits. Et les décisions de Canal actuellement de réduire leurs investissements font qu'il y a factuellement moins de films produits. Donc Canal, ça ne les dérange pas trop quand il y a moins de films produits. La vraie inquiétude, et c'est celle qui est actuelle, c'est le fait qu'un milliardaire va prendre du poids supplémentaire dans le domaine culturel, afin de possiblement silencier à nouveau des voix qui lui posent problème. Et s'il décide d'utiliser la même méthode que celle qu'il a toujours utilisée, à savoir casser un truc qui n'est pas cassé, pour ensuite dire « bah, c'est cassé, on le jette », voilà, j'ai des doutes sur l'avenir du cinéma de cette manière-là.
Le pire podcast du monde, Victor Bonnefoy pour le citer, le pire podcast de cinéma du monde, donc que je vous recommande. On mettra évidemment le lien vers la vidéo et le podcast complet sur la page de l'article de cette lorgnette. Je voulais évidemment vous interroger sur ce qui se passe justement avec ce potentiel rachat. On pourrait se dire que vous êtes un peu loin de tout ça en tant que multiplex indépendant. Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes si loin que ça? Est-ce que ça vous inquiète pas plus que ça?
On est loin. Ça nous inquiète, on ne va pas dire que ça ne nous inquiète pas non plus, mais non, c'est vrai que le podcast est intéressant. Tout à fait.
Parce qu'on voit bien que de maîtriser d'un bout à l'autre la chaîne peut engendrer des choses, alors pour le propre groupe, et notamment UGC, mais potentiellement pour les diffuseurs indépendants que vous êtes, ça peut aussi avoir un impact malgré tout.
Ah oui,
il est trop tôt pour en parler,
oui,
j'imagine.
Oui, je pense qu'il est un peu tôt, en effet, mais ça fait réfléchir.
Ça me permet quand même de vous demander voilà, quel est le rôle des cinémas, des multiples indépendant, il y en a trois, je crois, en Loire-et-Cher, Romorantin, Vendôme et vous. Voilà. Alors déjà, est-ce que il y a un lien entre ces trois équipements ou pas spécialement? Non. Vous faites, vous faites votre vie chacun de votre côté.
Oui, c'est ça. Oui, généralement.
Et est-ce que les chaînes de multiplex sont destinées à rester dans des grandes villes, ou est-ce que Pathé pourrait racheter un jour Cap Ciné de Blois? Est-ce que c'est des choses?
Alors je pense que c'est.
Est-ce qu'ils ont un intérêt?
Oui, il y a quelques années, non, c'était vraiment les gros groupes aller sur les grandes villes.
Ouais.
Je pense que ça a commencé à changer.
Ouais.
Donc nous, pour l'histoire, en 2005, le PDG avait construit le groupe Cap Cinéma, où on était. Il était propriétaire de 24 cinémas, donc il avait commencé à. C'était un joli petit groupe dont on a fait partie quelques années.
Okay.
Et il a choisi en 2018, je crois, de vendre. Donc, et c'est le réseau CGR donc, qui a racheté ces salles. Donc CGR se sont implantés. Nous, sa politique, c'était de s'implanter dans les villes moyennes.
Ouais.
Donc voilà, maintenant CGR est dans les villes moyennes, vu qu'il a racheté ces salles-là.
Et donc, il y a une vraie attention à ce qui se passe. Enfin, voilà, on voit que le marché des multiplex bouge et que voilà, vous êtes toujours vigilant à ce qui peut se passer.
Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait.
Ok. Eh bien, parlons maintenant. Alors, il parlait quand même dans le podcast voilà, de nouvelles formes de cinéma. Est-ce que vous avez une idée de ce qui arrivera de consommations différentes qui sont... Voilà, le cinéma est déjà une offre diverse. On parlait voilà, de l'opéra, de concerts, de spectacles vivants captés en vidéo. Est-ce que voilà, vous avez une idée de ce qui va se passer dans les années qui viennent pour les équipements de cinéma?
Bah, à part...
est-ce qu'il y a une trajectoire?
Après, il y a l'aspect technologique. Hein.
Ouais, voilà. Bien sûr.
Plus ça va, plus on arrive dans... Bah, en fait, c'est proposer des choses que les gens ne peuvent pas avoir chez eux. Hein. Je pense que c'est là où est l'avenir du cinéma. Et ensuite, en termes de diffusion, bah, comme je parlais tout à l'heure, hein, je pense que plus ça va aller, il va y avoir des contenus alternatifs qui vont être diffusés et non plus que des films. Voilà, on peut imaginer Canal+, effectivement, diffuser ces débuts de séries, on va dire, dans les salles UGC. Quoi.
J'ai une autre question justement par rapport aux offres. J'ai remarqué sur des films sortis récemment qu'il y avait aussi Netflix qui devenait producteur avec le logo qui s'affiche en grand. Est-ce que c'est pas du coup un peu frustrant ces partenariats avec les plateformes de streaming qui fait que du coup le film sortira plus tôt sur la plateforme et du coup qui feront que les gens payent leur abonnement mais ne payent pas la place de cinéma, ou alors Olivier Marchal, réalisateur, qui maintenant ne sort ses films qu'avec Netflix et plus au cinéma. Ce qui est assez paradoxal, le fait de faire du cinéma boycotter dans le sens les salles de cinéma.
Ah non, mais je suis d'accord. Totalement. Non, mais bon, voilà. Après, oui, Netflix est producteur, mais ça peut nous arriver d'avoir des films produits par Netflix au cinéma, ça nous est arrivé. Mais effectivement, pour moi, les plateformes, c'est pas du cinéma, quoi. Je suis désolé, mais...
Même quand c'est Scorsese qui le fait.
Ouais, bon.
je vous taquine, évidemment, la question est vaste, hein, évidemment.
Ouais.
Mais ça me fait penser, ta question, Mathilde, au fait qu'on est quand même dans une exception culturelle française avec la chronologie des médias qui est bien différente dans les pays occidentaux, on va dire, comparables aux nôtres. Ça reste, une frontière saine pour vous, cette chronologie des médias, j'imagine ?
Oui, je pense que oui. Effectivement, elle a été revue il n'y a pas très longtemps.
On rappelle que... Donc un film qui sort en salle a une exploitation, enfin peut être exploité en salle et exclusivement en salle 6 mois maintenant, c'est ça ?
Oui, je crois qu'on est là-dessus maintenant.
Ouais, on est 6 mois, c'était même il y a un an et demi, je crois, pendant très longtemps, et les plateformes de streaming ont justement permis de bousculer un peu cette chronologie. Donc 6 mois, et après 6 mois, effectivement, l'exploitation en vidéo et en SVOD est désormais possible, et on est à un an et demi de diffusion télé, je crois, ou quelque chose dans le genre.
Oui, ça doit être ça, oui.
Alors que c'était genre 2 ans et demi ou 3 ans, il y a encore 15 ans, je crois.
C'est ça.
Donc effectivement, cette chronologie des médias est encore une barrière pour la vitalité des cinémas.
Ouais. Bien sûr. Ouais,
là où les États-Unis, je crois, c'est 3 semaines ou 1 mois et demi. Enfin, très vite.
Hein. Beaucoup plus court.
Ouais. Parlons de ces 25 ans avec cet événement. Donc pour clôturer cette année et ce quart de siècle qui est depuis que vous êtes installé en zone nord de Blois. Donc vous fêterez vos 25 ans ce vendredi. Donc pour fêter cet anniversaire, qu'est-ce qui vous a décidé à fêter cet anniversaire cette manière?
Fallait marquer le coup.
Ouais.
Surtout ça. Comme vous dites, 25 ans, ça passe très vite. Alors, j'étais pas là au début, moi je suis arrivé en 2005, donc j'ai 20 ans déjà.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Ça vous permet d'être notre référent historique. Vous avez pu nous raconter l'histoire du cinéma sans trop de problèmes, même s'il vous manque quelques années au début.
C'est ça. Ouais. Non, fallait marquer le coup, donc fallait proposer quelque chose. Donc, il y aura un film, les gens arriveront, ils choisiront le film qu'ils veulent, donc ils seront dans la salle et dès qu'ils sortiront du film, donc il y a. Cocktail dînatoire, il y aura des soins, on a beaucoup de partenaires en soins, coiffure, esthétique, et après une grosse animation et on va dire une soirée dance floor jusqu'à tard.
Qui sera dans, dans le hall
dans
ou
le hall ouais, du dans cinéma. Le hall. Ouais, tout à fait.
Ça marche. Il y a un public fidèle qui sera là. Vous voyez, il y a des gens que vous avez identifiés, qui viennent régulièrement au cinéma
tout
et qui seront
fait,
là pour fêter tout ça.
Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'on a. On
l'avantage des villes moyennes aussi, j'imagine.
Voilà, des villes moyennes et on fait un peu la même chose qu'on fait pour nos soirées événements. On avait fait beaucoup de soirées filles. On essaie de faire de plus en plus d'événements. Donc je pense qu'il y a des gens dès qu'ils vont à un événement,
Ça fait partie de la diversification
de
l'offre
d'avoir ce genre
de programmation très spécifique.
On est obligé
très segmenté,
de faire ça à côté. Ouais, tout à fait. Donc c'est ce qui attire aussi. Le monde.
À partir de quelle heure cette soirée de demain ?
Début de soirée.
Début de soirée, un film et donc une soirée dansante
de
dance floor jusqu'au bout de la nuit ou presque.
Ouais, presque.
Très bien. Mathilde, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ?
Moi, ma dernière question, elle sera plus personnelle. En fait, elle vient d'où votre motivation du coup à défendre l'expérience en salle ? Est-ce que c'est juste le métier ou est-ce que c'est peut-être un souvenir d'enfance ? Est-ce qu'il y a des séances de cinéma qui vous ont marqué où vous avez dit, mais en fait, être vraiment entouré de gens, tous partager la même expérience, c'est voilà, il y a quelque chose derrière.
C'est exactement ça. Ouais, ouais. Alors oui, il y a un peu de métier, évidemment, mais non, c'est surtout ça. J'ai été habitué très jeune à aller à faire des séances de cinéma. D'ailleurs, il y a un gros sujet là-dessus sur l'éducation à l'image. Je pense qu'il faut, de plus en plus éduquer les plus jeunes à venir voir des films dans des salles de cinéma pour dans quelques années, ils reviennent dans les salles. Donc ça, c'est très très important. Et oui, j'ai vu des... C'est vrai que cet amour du cinéma, je l'ai toujours eu. Moi, je suis arrivé un peu par hasard en 2005. Et en fait, je suis resté là, quoi. Donc, enfin, c'est compliqué à travailler dans un cinéma. C'est compliqué, mais voilà, dès qu'on est pris... On s'arrête pas.
Eh bien, merci donc Sébastien Vanstin, directeur du Cap Ciné, donc venu nous parler de l'histoire de cet équipement culturel, de cette institution culturelle sur le Blaisois. Donc on rappelle votre soirée des 25 ans, ce sera demain soir à partir de 19h. Donc un film au choix qui est projeté dans une des 11 salles de votre cinéma, et puis une soirée DJ qui prendra le relais à votre sortie du film. Merci encore d'être venu au studio de Studio Zef pour parler du Cap Ciné. On se quitte dans quelques minutes. C'est La Roxette de Christophe. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Studio Zef. Merci Mathilde.
Merci.
Et à très vite sur nos antennes. Salut à tous et à toutes.